Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Le taux de chômage en France, il a baissé à 7,4% au quatrième trimestre. Il s'agit du taux le plus bas jamais enregistré depuis près de 15 ans. À noter également la diminution record enregistrée chez les 15-24 ans avec un taux de chômage de moins de 16% du jamais vu depuis 40 ans.
Ce n'est pas encore le plein emploi pour la France, mais cela en prend le chemin, à condition que la crise pandémique qui se réveille en Chine et que le contexte de guerre en Ukraine ne vienne pas casser la dynamique d'emploi et de croissance perceptible depuis la fin de la crise sanitaire. Mais d'autres pays d'Europe ont déjà atteint le plein emploi, à l'image des Pays-Bas, et vous allez voir, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour tout le monde.
Attraper le chômage.
Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast des Échos. Chaque semaine, la rédaction se retrousse les manches pour analyser et décrypter l'actualité économique, politique ou sociale. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à la face cachée du plein emploi, la galère du recrutement.
Une autre fierté néerlandaise. L'Agence publique pour l'emploi. Ici, en plein après-midi de semaine, pas une file d'attente et des bureaux inoccupés. À Amsterdam, le taux de chômage dépasse à peine les 4%.
Cette vidéo de France Info date de 2016 et 6 ans plus tard, rien n'a vraiment changé. Le taux de chômage est même tombé à 3,8% en 2021. Il n'est que de 4% pour les femmes et de 7,8% pour les moins de 25 ans. Et selon les experts, il pourrait tomber à 3% en 2024. Aux Pays-Bas, il suffit de se baisser pour trouver un travail, pas même besoin de traverser la rue, dans un pays qui affiche depuis plusieurs années une croissance supérieure à la moyenne de la zone euro. Un paradis pour les employés, moins pour les entreprises. Bonjour Stéphane De Vries.
Bonjour Pierrick.
Vous êtes correspondant des Échos aux Pays-Bas. Le plein emploi, c'est déjà une réalité au pays du gouda et de la tulipe?
Oui, on peut dire ça. Enfin, tout dépend bien évidemment de la définition du plein emploi. Je pense qu'en France, ce sera à peu près 5%. Aux Pays-Bas, actuellement, c'est 3,4%. Donc, en effet, je pense qu'on peut vraiment parler du plein emploi.
Comment expliquer que le taux de chômage soit aussi bas, et en particulier celui des jeunes?
En fait, ça date d'il y a très longtemps. Il y a eu des réformes dans les années 80 où les partenaires sociaux, les ministères, plein de parties dans la société néerlandaise sont mis ensemble autour d'une table en 82. Il faut savoir qu'à la fin des années 80, la situation économique des Pays-Bas et la France était plus ou moins comparable. Même taux d'inflation, même taux de chômage, déficit, dette, etc. C'était assez comparable. Et puis, aux Pays-Bas, on s'est dit, c'est plus tenable, on peut plus faire ça. Et donc, tout le monde s'est mis autour de la table et il y a eu des négociations qui ont duré très longtemps, une sorte de Grenelle de la société, si vous voulez. Et puis, à ce moment-là, les partenaires sociaux, les syndicats, les employeurs ont décidé, OK, on va limiter les augmentations des salaires en échange d'une garantie d'emploi. Donc, à partir de là, en fait, la tension sociale a quasiment disparu et donc, il s'est mis en place une sorte de concertation permanente entre tout le monde. Donc, tout le monde se met autour de la table dès qu'il y a un problème et les conflits sont très, très rares, aussi les grèves. Mais ça a contribué donc à une énorme stabilité du marché du travail et puis, ça a pris beaucoup de temps hein, avant d'arriver à un chômage qui était en dessous de 7%, disons qu'au début du siècle, de ce siècle, donc 2000. C'était à peu près 7%. Bon, quand il y a eu la cohabitation avec Chirac, Jospin, c'était aussi 7,5, je crois, en France. Mais à partir de ce moment-là, l'économie néerlandaise a commencé à croître assez rapidement. Et donc, le chômage a quasiment disparu, notamment aussi à cause de globalisation. La globalisation, elle est perçue aux Pays-Bas comme une chance et pas comme une menace, comme en France. Et donc, les Pays-Bas sont transformés en économie extrêmement ouverte, flexible aussi, et internationale.
Il y a quelques années, on parlait aux Pays-Bas
de l'obligation de travailler un peu pour obtenir des indemnités de chômage, notamment chez les jeunes.
Oui, oui, c'est à peu près l'idée que Macron vient de présenter quand il veut que les gens fassent quelque chose en échange des
allocations.
Ouais, RSA. Ça n'a jamais vraiment abouti à quelque chose de concret. Donc, déjà, le nombre de gens qui dépendent des aides sociaux, c'est pas très grand puisque quasiment tout le monde travaille aussi chez les jeunes. Il y a aussi une très grande participation des jeunes dans le marché du travail. Je pense que 75% des jeunes ont un travail, ont un boulot. En France, c'est 36%. Donc, la majorité des jeunes travaillent. Et en fait, je ne sais pas pourquoi, mais quand moi j'étais lycéen, par exemple, lycéen au lycée, tout le monde dans ma classe avait aussi un petit boulot à côté. Donc, à partir de 15 ans, on commence à travailler. Et pas par nécessité, c'est vraiment par choix. Comme ça, j'avais un peu plus d'argent de poche. Et en plus, tu as une certaine expérience. Et puis, c'est sympa. Donc, c'est vraiment dans la tradition de travailler, pas beaucoup, hein, un peu, parce que c'est aussi le pays champion du monde du temps de travail en temps partiel, travail en temps partiel. Donc, le travail n'est pas quelque chose qui est perçu comme quelque chose de négatif. Je pense que c'est une grande différence avec la France.
Comment fonctionne le système des allocations chômage, justement, aux Pays-Bas?
Quand on est salarié, on cotise, bien évidemment. Et après, quand on est au chômage, déjà, c'est assez rare hein, d'être au chômage. Il y a un très bon accompagnement donc pour trouver un autre emploi, pour changer peut-être de métier, si besoin. Et puis, il y a une allocation qui est dégressive. Très rapidement, en fait, après un an, on gagne très peu. Donc, ça incite aussi les gens à chercher du travail, à rester actifs. Mais c'est aussi possible. Donc, on n'a pas besoin de rester au chômage très longtemps. Et puis, le salarié, il est aussi bien protégé en France qu'aux Pays-Bas. Sauf qu'avec le plein emploi, c'est plutôt le salarié qui est aux manettes. C'est plus l'employeur. Donc, il y a très peu de cas de licenciement abusif, par exemple. Et donc, ça veut dire que les salariés ou ceux qui travaillent aux Pays-Bas n'ont pas peur. Et il n'y a pas de grande tension sociale. S'il y a un problème avec le patron, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas vraiment de hiérarchie aux Pays-Bas, enfin, ça existe, mais on peut tout dire, tout ce qu'on veut, plus ou moins, au manager. Dès qu'il y a un problème, on peut voir ses supérieurs et on s'arrange pour qu'il n'y ait plus de problème. Donc, il y a un dialogue permanent. Les gens n'ont pas peur. Donc, du coup, rester au chômage, ce n'est pas vraiment nécessaire.
Et alors, c'est vrai que le taux de chômage est extrêmement bas,
oui.
Mais on voit quand même, il faut le noter, qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent à temps partiel.
Oui, tout à fait.
Pour quelle raison?
Oui. C'est depuis très longtemps. En fait, les chiffres, je les ai ici. Il y a 48% des gens aux Pays-Bas qui travaillent en temps partiel, donc disons la moitié. Et en France, c'est que 18%.
Il y a une différence énorme quand même.
Énorme, énorme. Et il y a plusieurs explications. Déjà, traditionnellement, les femmes néerlandaises ne travaillent pas ou très peu. Quand il y a eu, par exemple, la guerre 14-18 ou même la Seconde Guerre mondiale, les Pays-Bas étaient neutres. Bon, à la Seconde Guerre mondiale, les Pays-Bas étaient envahis. Mais dans beaucoup de pays, donc l'Angleterre, mais aussi en France, surtout en 14-18, les femmes ont plus ou moins
remplacé les soldats.
Remplacé les hommes, ouais. Et aux Pays-Bas, ça n'a jamais été le cas parce qu'il n'y a eu pas de vraie situation de guerre comme ça. Et donc, la tradition aux Pays-Bas veut que la femme s'occupe de la famille. Ça contraste avec l'image moderne, avant-gardiste des Pays-Bas. Mais la femme reste à la maison, donc ça a commencé avec ça. Depuis donc 50 ans, les femmes aussi ont commencé à travailler. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, les femmes, et notamment les femmes avec une éducation supérieure, considèrent le droit de rester à la maison comme un droit acquis. Donc, il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas travailler parce que c'est leur choix. Donc, elles préfèrent rester à la maison et prendre soin des enfants. C'est en train de changer très lentement. Mais ce qui est intéressant aussi, donc ça, c'est une partie de l'explication, parce que beaucoup de gens travaillent au temps partiel, on a une autre perception du travail. Comme je disais tout à l'heure, le travail en France, c'est un peu, enfin, c'est un mal nécessaire. Le patron est très souvent détesté ou cause des tensions. Aux Pays-Bas, les salaires sont plus élevés qu'en France. Donc, on travaille moins et on gagne plus. Donc, c'est le contraire des objectifs de beaucoup de présidents ou candidats à la présidentielle en France. Et donc, maintenant, ça devient un choix de vie. Donc, en général, le temps partiel n'est pas du tout subi. C'est vraiment un choix de vie parce que je vois ça aussi avec plein de mes amis, hommes aussi. Hein. Pourquoi travailler 5 jours si tu peux gagner ta vie en 4 jours? Parce qu'il y a autre chose dans la vie que travailler. Donc, c'est vraiment à la fois une sorte de très bizarre tradition des années 50 qui est en train de changer. Et donc, de l'autre côté, une envie de vivre et de ne plus vivre pour le travail, mais juste travailler assez pour qu'on puisse vivre correctement.
J'aime pas travailler, patron. Tu crois que je te prends pour un con?
Ça boule sud, hein?
Tu aimerais bien me virer
si je t'avais laissé m'embaucher.
Le plein emploi, On a compris, hein, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les employés, pour les chômeurs aussi, qui peuvent retrouver assez facilement du travail. C'est moins une bonne nouvelle pour les entreprises néerlandaises ?
Oui, c'est un peu paradoxal, mais le plein emploi commence à poser des vrais problèmes dans la société néerlandaise. Le plus visible, c'est par exemple quand on voit dans un restaurant un café, il faut attendre très longtemps pour avoir une consommation. Donc, il faut être très patient. Mais bon, en France, il y a aussi des tensions dans le secteur de la restauration. Hein, mais aux Pays-Bas, ce qui est différent, c'est que c'est vraiment dans tous les secteurs. Et donc, ça commence à poser des problèmes. Il y a des entreprises qui ne peuvent plus répondre aux commandes, sont obligés de diminuer leurs activités. Lorsqu'on veut, par exemple, faire appel à un artisan ou menuisier ou je ne sais pas qui, il faut attendre 6 mois, 12 mois. À l'hôpital, pareil, il y a partout où on va, il n'y a simplement pas assez de gens. Il y a les trains, les chemins de fer nationaux ont des grands problèmes à recruter des aiguilleurs, donc des gens qui gèrent le trafic ferroviaire. Et donc, très régulièrement, au moins une fois par semaine, on peut entendre sur une quai d'une grande gare aux Pays-Bas, malheureusement, votre train est supprimé parce qu'on n'a pas de personnel. Et donc, bien sûr, ça a l'air comme un conte de fées, le plein emploi, tout le monde est beau, tout le monde est riche, mais ça a des effets dominos. Parce qu'imaginez que vous attendez votre train, parce que vous avez un rendez-vous d'affaires, par exemple, pour votre travail, le train n'arrive pas, vous devez annuler... Donc, en fait, c'est toute une sorte de maison de cartes qui tombe. Et donc, aujourd'hui, le gouvernement est très, très occupé. Les employeurs font vraiment des énormes... Ils sont très créatifs parce qu'il faut embaucher des gens et ils ne savent pas comment.
Alors ça, on va en parler, hein, parce que vous l'écriviez hein, dans les Échos, 387 000 emplois vacants fin décembre dans le Royaume. Ouais. Ça reste un petit pays, 387 000 emplois, c'est énorme.
Ouais.
Comment est-ce que les entreprises font pour recruter, pour trouver la perle rare et la garder ?
En fait, les derniers chiffres, c'est du premier trimestre, c'est 403 000 emplois vacants. Et à titre de comparaison, en France, c'est le chiffre d'Ares, c'est 350 000. Donc, il faut savoir que la France a 3,8 fois plus d'habitants. Donc, proportionnellement, il y a à peu près 5 fois plus d'emplois vacants aux Pays-Bas qu'en France, qui fait qu'aujourd'hui, il y a 118 offres pour 100 chômeurs. Et en France, c'est 18 offres pour 100 chômeurs. Donc, il y a 10 fois plus d'offres d'emploi aux Pays-Bas. C'est immense, surtout avec la...
Bah, il suffit de traverser la rue, là, c'est sûr. Hein, c'est vraiment
Mais en fait, c'est l'inverse. C'est l'employeur qui va traverser la rue pour vous venir vous chercher. Et je le vois tous les jours que les gens sont proposés plein d'argent, d'autres trucs.
Et justement, comment est-ce qu'on les appâte hein?
Avec des solutions très créatives. Parce qu'en fait, on commence à se rendre compte que le salaire, ça joue plus un rôle déterminant dans le choix de l'emploi. Parce que les salaires sont assez confortables. Bien évidemment, les impôts sont aussi très élevés, plus élevés qu'en France, impôts sur le revenu. Donc, il faut être créatif. Donc, ça veut dire qu'il y a des entreprises qui organisent des soirées, des fêtes, des signatures de contrats dans des montgolfières. J'ai aussi rencontré une boîte intérimaire qui recrute notamment des ingénieurs dans le BTP. Eux, ils proposent 10 000 euros à chaque jeune diplômé qui sort de la fac, 10 000 euros ou un voyage autour du monde s'il signe un contrat pour 2 ans. Et il y a plein d'exemples comme ça. On donne aussi de l'argent, par exemple, aux gens qui travaillent déjà dans une entreprise, peuvent toucher entre 500, 1 000, 1 500 euros. Je connais même une boîte qui propose 2 000 euros si on propose un candidat. Donc, si on emmène quelqu'un qui pourrait travailler dans l'entreprise, on touche de l'argent. Et même ça... ne suffit pas, parce que tout simplement, les gens n'existent pas, ils sont pas, il n'y en a pas.
C'est intéressant, parce que vous donnez aussi l'exemple du PDG d'une entreprise, lui, qui propose carrément d'aider les employés, par exemple, pour repasser leur linge.
Oui, absolument. Oui. Et c'est une entreprise informatique dans le sud du pays qui, l'année dernière, a fait 200 personnes. Cette année, ils doivent embaucher encore 200, l'année prochaine aussi. Et ils ont mis en place une sorte de service de conciergerie qui s'occupe non seulement de laver les linges et repasser, mais aussi d'une sorte de service de postillon amoureux. Donc, comme il y a beaucoup de personnes derrière les ordinateurs, ils n'ont pas forcément le temps de trouver des partenaires. Donc, il y a une sorte de Tinder de l'entreprise. Et tout cela, non seulement pour recruter, parce que ça, c'est un sujet, mais l'autre sujet, c'est comment garder les gens. Parce que ça, c'est encore plus compliqué, parce qu'il y a plein d'entreprises qui sautent, en fait, sur les gens.
Pour s'en sortir, les entreprises ont du coup recours à l'immigration.
Oui, tout à fait. Les Pays-Bas connaissent une très forte croissance démographique, 3 fois plus rapide que la France. Le pays est très dense. le pays à la taille de la Bretagne, mais il y a 18 millions d'habitants. Donc, c'est en fait une très grande ville où la population augmente aussi très rapidement. Ça pose d'autres problèmes par ailleurs, mais en effet, l'une des solutions est de faire appel aux immigrés, enfin aux gens du monde entier.
Notamment les Français.
Notamment les Français, en effet. Il y a beaucoup de Français qui s'installent aujourd'hui aux Pays-Bas, bien évidemment pour le travail, mais aussi pour la qualité de vie. Ça, c'est quand même très important parce que la vie est moins stressante aux Pays-Bas qu'en France. Les salaires sont plus élevés, les horaires sont beaucoup plus, plus humaines, il y a moins de tensions, donc ça attire vraiment beaucoup de Français. Donc, en effet, les Pays-Bas deviennent aussi une sorte d'Eldorado pour les Français.
Mais est-ce que ça veut dire qu'à terme, les entreprises ne vont pas être contraintes d'augmenter les salaires ?
C'est ce qui est déjà en train de se passer, bien sûr aussi pour l'inflation, donc les salaires augmentent à peu près de 2,5-3% par an, mais ce n'est plus le seul critère. Pour beaucoup de gens, les salaires sont déjà assez confortables. C'est sympa de gagner plus, mais ce qui compte beaucoup plus, c'est en fait la vie autour. Donc, comment est-ce qu'on organise sa vie par rapport au travail? Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui embauchent des coachs, des instructeurs sportifs, qui organisent des choses qui, en fait, améliorent la vie. Et c'est donc plus seulement le salaire, parce que ça, c'est juste un détail. Ça peut paraître bizarre, surtout en France, où on doit souvent se contenter d'un salaire assez inférieur. Donc, c'est plus du tout le point principal pour un salarié.
Koningin Maxima bezoekt in Amsterdam een humanitair service point voor vluchtelingen uit Oekraïne.
La reine Maxima des Pays-Bas est allée courant mars à la rencontre des premiers réfugiés ukrainiens arrivés à Amsterdam. Elle était habillée d'un pantalon et d'un pull jaune surmonté d'un manteau bleu, les couleurs de l'Ukraine. Ça a beaucoup marqué les magazines People notamment. Ouais. Depuis, les arrivées n'ont cessé. Ils sont aujourd'hui près de 30 000 Ukrainiens à avoir trouvé refuge dans ce pays, 14 ouais. fois plus ouais. petit que l'Ukraine. Il y a beaucoup de femmes et d'enfants, oui. mais le gouvernement a fini par ouvrir son marché du travail à cette nouvelle population?
Oui, tout à fait. Assez rapidement, les Ukrainiens avaient le droit de travailler. Et puis, depuis le 1er avril, la réglementation est identique aux autres Européens. Donc, les employeurs qui embauchent des Ukrainiens n'ont qu'à déclarer l'embauche sur Internet, très facile. Et puis, un Ukrainien, il vaut autant qu'un Néerlandais dans ce cas-là. Et puis, depuis quelques semaines, on embauche aujourd'hui 200 Ukrainiens par jour. Et il faut savoir aussi que vous disiez tout à l'heure que la majorité sont des femmes et des enfants. Donc, le challenge aujourd'hui, c'est ne pas forcément trouver du travail, parce qu'il y a du travail, mais en fait, le matching, donc où est-ce qu'on va placer une personne par rapport à ses compétences et où est-ce qu'on va trouver un emploi pour cette personne qui convient.
Il y a les fleuristes, les commerçants, les supermarchés, oui. les restaurants notamment, oui. qui s'intéressent beaucoup à cette main-d'œuvre potentielle. Vous avez rencontré des employeurs oui. qui ont saisi cette occasion. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit?
Ils sont ravis. Leur première démarche pour aider les Ukrainiens, c'est vraiment pas aide humanitaire. Il n'y a pas vraiment des idées d'exploitation ou tout ça. D'abord, on veut aider les gens. Et donc, très rapidement, on s'est aperçu, j'en ai rencontré pas mal aussi, de réfugiés ukrainiennes, parce que sont presque toutes des femmes. En fait, l'attitude aux Pays-Bas, peut-être aussi en France, c'est un peu ces gens ont traversé un grand périple avec plein de traumatismes, ils viennent de la guerre, donc il faut qu'ils soient bien chez nous. Donc, on va prendre soin d'eux. Mais en fait, la majorité des Ukrainiennes, elles ne sont pas du tout dans cet état. Bien sûr, elles sont dans un état fébrile ou fragile, choquées, mais leur premier souhait, c'est de travailler, de gagner leur propre argent, de reprendre la vie normale aussi vite que possible. Donc, ça veut dire que les enfants seront très rapidement scolarisés et les femmes travaillent. Et donc, notamment, j'ai rencontré pas mal d'entrepreneurs qui ont déjà embauché des femmes. Et aussi, dans l'éducation nationale, il y aura plein de classes en ukrainien. Donc, il faut embaucher aussi des instituts qui viennent de l'Ukraine. Donc, il y a énormément de travail pour ces gens-là. Mais même 200 par jour, ça ne suffit pas du tout. Il en faut à peu près 1000 ou 1200 par jour pour en fait répondre aux besoins du marché.
Oui, c'est vrai que c'est pas non plus une solution de long terme parce non. que beaucoup auront vocation à retourner en Ukraine.
Oui, en plus, vous avez raison.
Ça sera,
oui.
sera calmé. En attendant, cette pénurie de main-d'œuvre, elle fait craindre pour la dynamique de croissance du pays?
Je pense, oui, ça pourrait avoir une incidence sur la croissance parce que on voit déjà qu'il y a beaucoup de choses qui bloquent. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est une sorte de domino. Il suffit qu'une pièce tombe et puis les autres suivent. Par exemple, moi j'ai deux enfants qui ont 7 ans et demi, qui sont à l'école, une école assez sympa, publique, dans le centre d'Amsterdam. Il y a régulièrement des heures qui tombent parce que soit, bon, maintenant on est on a eu Covid et tout ça, donc il y a eu pas mal d'arrêts maladie. Mais même, donc en fait, dès qu'il y a un instit qui ne peut pas travailler, on trouve plus de remplaçantes. Et ça, c'est un grand problème. Donc j'ai discuté avec la directrice de l'école à propos de ce sujet pour les Échos, pour un article, et elle m'a dit que dans ce quartier plutôt aisé, cette école a une très bonne réputation et jamais elle a eu des problèmes, ni ses prédécesseurs, à recruter pour cette école parce que tout le monde veut travailler là-bas. Le système est un peu différent aux Pays-Bas. C'est l'école qui embauche et c'est pas la rue de Grenelle qui envoie quelqu'un dans le sud de la France dans une école primaire pour dire voilà votre nouvelle institutrice. Donc les écoles sont très autonomes, ont des gros moyens aussi parce qu'avec, après la pandémie, toutes les écoles primaires ont touché à peu près 800 000, 1 million d'euros. Par école, libre pour dépenser, pour investir. Et donc, ce qui se passe, il y a un effet assez pervers. Beaucoup d'écoles utilisent cet argent pour augmenter les salaires. Donc, il y a une concurrence entre les écoles. Et je parle bien des écoles publiques, hein, parce qu'aux Pays-Bas, toutes les écoles sont publiques et gratuites. Et il y a des écoles qui proposent des voitures, des logements. Et même avec toutes ces propositions, ça reste très, très difficile à recruter. Donc oui, ça commence à l'école. Donc juste pour dire, en fait, donc si mes enfants ne peuvent pas aller à l'école, moi je suis obligé à rester à la maison. Ça veut dire que cette journée-là, je ne peux pas gagner de l'argent. Donc vous voyez, c'est vraiment un domino qui a des effets énormes. Et en même temps, c'est paradoxal, les gens ont pas envie de travailler. Donc si vous vous baladez aux Pays-Bas dans les grandes villes avec les beaux jours comme aujourd'hui, vous verrez toutes les terrasses sont pleines. Moi, souvent, j'ai l'impression que les Néerlandais travaillent pas. Donc, c'est un peu étrange.
Merci Stéphane De Vries, correspondant des Échos aux Pays-Bas. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Le podcast des Échos est disponible sur toutes les applications de téléchargement et de streaming comme Apple Podcast, Podcast Addict, Castbox, Google Podcast, Spotify ou encore Deezer. Vous pouvez même demander à Alexa de lire le dernier épisode de la story sur Amazon Music.
Prescription products require completion of an online medication consultation with an independent healthcare provider through the LifeMD platform and are only available if prescribed. Subscription required. Individual results may vary. Additional restrictions apply. Read all warnings before using GLP-1s. Side effects may include a risk of thyroid C-cell tumors. Do not use GLP-1s if you or your family have a history of thyroid cancer.
If you've struggled for years to lose weight and have given up hope, did you know you can now access GLP-1 prescription medications at TryLifeMD.com? We're now offering eligible patients online access to GLP-1s, the breakthrough prescription medication that can help you lose body fat and weight. Listen to what people are saying.
It's fun to put on jeans that you couldn't get into 6 months ago.
Every morning, I look forward to getting on the scale.
For anybody who's struggling with their weight, it's a godsend.
And here's the best part. Your insurance may cover 100% of the cost of your medication. So go to TryLifeMD.com to have your eligibility checked right now. Get started today at TryLifeMD.com. That's TryLifeMD.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.